France Inter.
Il arrive en courant en portant sur son dos son taxi. Un surhomme qui, même pendant l'émission, travaille son beautiful body. Entre deux chroniques, il soulève de la fonte sous le regard et les encouragements de ses deux coachs, Sonia et Aline.
Go !
Qu'affectueusement, il surnomme Testostérone.
Bonne séance à tous. Bonjour Nicolas Demorand.
Bonjour Mathilde Munoz. France Inter, 7h.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-10.
Jeudi 21 mars, bonjour à tous, bienvenue sur Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, année record en France pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre.
Presque moins de 5% sur un an grâce à son électricité décarbonée, explication dès le début du journal. Taper sur les intérêts des avoirs russes, c'est l'une des pistes des Européens pour aider l'Ukraine. Le sommet débute aujourd'hui à Bruxelles. À la Courneuve, une marche blanche pour rendre hommage aux jeunes tués dans un accident de scooter avec la police. Et puis le footballeur le mieux payé de France gagne 100 fois plus que la footballeuse la mieux payée.
Et les invités d'Inter ce matin, 7h50, Sonia De Villers, bonjour.
Bonjour à tous. Une femme de 95 ans qui lutte pour le droit à mourir dignement. Une femme de 95 ans qui s'est battue de toutes ses forces pour faire reculer l'épidémie du sida et qui en découdra jusqu'au bout. Le SIDAction célèbre son anniversaire. Éline Renaud nous donne de ses nouvelles à 7h50.
À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale consacré à la sécheresse. Deux invités, Emma Aziza, François Gémen. 9h20, une star au micro de Léa Salamé. C'est l'acteur britannique Jude Law.
France Inter.
Après des années de prise de conscience de ces printemps toujours plus précoces, des étés caniculaires, des hivers trop doux et cette planète en surchauffe, voici une bonne nouvelle concrète sur le front du climat en France. Les émissions de gaz à effet de serre ont reculé, et pas qu'un peu, moins 4,8% en 2023, d'après l'organisme indépendant le CITEPA qui liste les détails de la pollution au carbone. Il publie ce matin son estimation. C'est une année record, se félicite le ministre de la Transition écologique qui voit le résultat de sa politique. D'autres mettent en avant la douceur des températures de 2023, la deuxième plus chaude de l'histoire de France. Alors qu'en est-il exactement? On voit ça avec vous, Sandy Dauphin.
La principale réduction concerne la production d'énergie, moins 14% grâce à une meilleure disponibilité du parc nucléaire. Dans l'industrie, c'est moins 8%, notamment en raison d'une baisse de production, ciment, chimie, acier. Baisse également pour les bâtiments. Les émissions liées au chauffage reculent de 7%. Pour le trafic routier, c'est moins 3%. Le prix élevé de l'énergie et des carburants y sont pour beaucoup, mais les facteurs conjoncturels n'expliquent pas tout, estime Colas Robert, ingénieur chez CITEPA. Il y a aussi des changements plus en profondeur.
Il y a certes des raisons conjoncturelles qui sont importantes, mais en plus, il faut bien dire que nos chiffres commencent aussi à refléter des éléments structurels, l'effet aussi de certaines aides publiques, comme la rénovation des bâtiments. On a aussi une hausse en 2023 des ventes de pompes à chaleur, donc une électrification et donc une décarbonation d'une partie du chauffage. On a une hausse des ventes des véhicules électriques. On a aussi, plus généralement, des changements de comportement. On a la poursuite d'effets de sobriété qu'on avait observés pendant la crise énergétique.
En 2023, la France a émis 385 millions de tonnes de CO2 équivalent sur son territoire, un niveau inférieur à 2020, l'année du Covid et des confinements où la baisse des émissions avait été historique.
Et depuis 1990, la France a baissé de 29% ses émissions de CO2. L'objectif fixé par l'Europe est de moins 55% d'ici à 2030. Il faut donc doubler les efforts, dit le ministre Dominique Seux. Il revient tout à l'heure dans l'édito Écho.
Il est 7h03, une dizaine d'explosions entendues cette nuit dans le centre de Kiev.
Attaques de missiles et drones russes dont on ne connaît pas encore l'ampleur. Des débris de roquettes sont tombés dans certains quartiers de la capitale ukrainienne, alors que les dirigeants des 27 pays européens se réunissent à partir d'aujourd'hui en sommet à Bruxelles pour trouver les moyens d'aider l'Ukraine et se protéger de la Russie. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante permanente à Bruxelles. Il y a plusieurs idées pour trouver de l'argent pour armer Kiev, notamment en lorgnant vers les 200 milliards d'euros d'avoirs russes gelés en Europe.
Alors plusieurs pistes sont sur la table des dirigeants. La Commission propose d'abord d'utiliser les intérêts des avoirs russes gelés en Europe, jusqu'à 3 milliards d'euros par an, dont 90% serviraient aux achats d'armes dont Kiev a un besoin crucial pour continuer la guerre. Mais les Européens prennent aussi conscience qu'ils doivent se réarmer, eux aussi collectivement, mutualiser leurs forces pour freiner la Russie en cas de défaite de l'Ukraine. Une autre option est donc de recourir aux bras armés financiers de l'UE, la Banque Européenne d'Investissement. Les industriels de la défense peinent à lever des fonds pour augmenter leur ligne de production. La BEI pourrait servir d'effet de levier. Plus de la moitié des États européens ont déjà écrit à l'institution pour lui demander d'élargir sa politique de prêt plutôt orientée actuellement vers le climat.
Et puis une autre idée, Angélique, celle de lancer un emprunt commun.
C'est la moins consensuelle des trois, emprunter en effet collectivement 100 milliards d'euros. C'est une proposition de la dirigeante estonienne Kaja Kallas, dont le pays est en première ligne face à Moscou. Idée saluée par le commissaire français à la Défense, Thierry Breton, et par le président Macron. Mais sans surprise, cette option ne réjouit pas les États dits frugaux, Pays-Bas, Allemagne, allergiques à l'endettement. Alors soyons créatifs pour les convaincre, dit-on à Paris, où l'on estime que l'Allemagne pourrait bien finir par monter à bord, comme à l'époque du Covid. Trouver de nouveaux financements ne se décide ne décidera pas en un seul sommet, mais le temps presse. Les premières décisions sont espérées avant l'été.
Angélique Boin, depuis Bruxelles, le sommet se poursuit jusqu'à demain. Les Européens vont aussi tenter d'adopter une déclaration commune sur la situation à Gaza. Gaza avec ce projet de résolution déposé par les États-Unis à l'ONU qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des otages. Washington avait pourtant mis plusieurs fois son veto à des textes identiques. L'Europe, il en sera encore question aujourd'hui au Sénat avec un probable mariage de la carte et du lapin à propos du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, appliqué en Europe depuis 7 ans, mais toujours pas ratifié par la France. Il avait été voté ric-rac par l'Assemblée nationale en 2019. Le gouvernement ne l'avait jamais mis à l'ordre du jour du Sénat. Le groupe communiste lui force donc la main aujourd'hui et inscrit la ratification du CETA dans sa niche parlementaire. Traité décrié à droite par la droite qui soutient les éleveurs français, mais aussi par la gauche qui y voit un recul environnemental, explication dans le journal de 8 heures. Ils vont rendre hommage à Wanis, ce jeune de 18 ans, mort la semaine dernière à scooter dans une collision avec une voiture de police après un refus d'obtempérer. Une marche blanche part cet après-midi de la mairie de la Courneuve, dont le commissariat a été attaqué, pour s'achever sur les lieux du drame à Aubervilliers. Ses proches et sa famille réclament justice. Benjamin Recrouvereur, vous êtes retourné sur place.
Les quarts de CRS sont toujours très nombreux aux abords du commissariat. L'émotion, elle, reste très forte.
Tout le monde est touché. C'était un jeune qui était sans problème, qui était très respectueux.
Cet éducateur social organise la marche blanche de ce soir avec la famille. Il côtoie tous les jeunes du quartier.
La marche, déjà, dans un premier temps, c'est pour qu'on puisse tous se retrouver et dénoncer l'injustice. Aujourd'hui, c'était Wanis, demain, ça peut être eux. Donc, à un moment donné, il faut que ça cesse.
La vérité, c'est ce que réclame ce jeune trentenaire proche de Wanis qui discute avec des amis.
Ce qu'ils ont fait à Wanis, c'est impardonnable. On sait qu'ils iront pas en prison, la police, tout ça, malgré qu'ils ont fait ça. On sait ça. Mais au moins qu'ils disent la vérité, qu'ils admettent qu'ils ont fait une erreur de leur part, c'est tout.
Une faute des policiers, disent ces jeunes. Deux enquêtes sont en cours pour préciser les circonstances. Depuis le drame et les tensions qui ont suivi, c'est aussi le sentiment d'être incompris, stigmatisé qui revient.
En fait, on est vus comme des immigrés, des fouteurs de troubles, voilà.
Alors d'autres espèrent un dialogue entre jeunes et police, comme cette enseignante.
Ces quartiers-là ont besoin de beaucoup plus de soutien. Et là, le soutien manquant, il est sur le plan émotionnel, pour que chacun puisse s'exprimer. Ils ont l'impression d'être tout le temps visés pour ce qu'ils représentent plus que pour ce qu'ils sont.
Pour l'instant, le dispositif de police reste en place jusqu'à nouvel ordre.
Un reportage à la Courneuve de Benjamin Recouvreur. Le groupe de BTP Vinci réclame 1,6 milliard d'euros à l'État. Il s'estime lésé par l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes dont il devait être le concessionnaire.
Il est 7h08, c'est la première pratique culturelle dans l'Hexagone et c'est...
Et c'est le jeu vidéo pratiqué par 39 millions de joueurs. L'année dernière, le chiffre d'affaires du secteur a atteint son pic historique, 6 milliards d'euros, grâce entre autres aux ventes de consoles PlayStation, Xbox et Switch, qui ont fait un bond spectaculaire de 72% en un an, année exceptionnelle qu'il sera difficile d'égaler, nous dit notre spécialiste Olivier Bénis.
Une année comme ça, on n'en avait jamais vu et on n'en reverra sans doute pas de sitôt, explique James Rebourg, le président du CEL.
On a clairement eu un alignement des planètes en 2023, aussi bien dans l'univers console que l'univers jeux sur mobile. Et clairement, sur 2024, on sera plus sur une normalisation du marché.
Deux raisons principales à ce succès. D'abord, une production colossale de jeux, 711 nouveautés sur console, plus de 14 000 sur PC, avec des locomotives comme Zelda, eSports FC 24 ou Diablo 4, mais aussi la fin de la pénurie de consoles de jeux. Depuis leur sortie en 2020, PlayStation 5 et Xbox Series étaient presque constamment en rupture de stock, faute de composants électroniques suffisants.
Les consommateurs qui étaient en attente de pouvoir acheter donc, des consoles ont quand même souffert sur les années 21 et 22. Et qu'en 23, donc, le marché a pu fournir ces consoles, les consommateurs se sont vraiment rués sur ces nouvelles consoles.
Résultat, sur les 6 milliards 100 millions d'euros de chiffre d'affaires du jeu vidéo, 1 milliard vient uniquement des ventes de consoles qui ont presque été multipliées par 2. Une bonne santé financière globale qui contraste avec la crise mondiale que traverse le secteur. Depuis plusieurs mois, restructurations et licenciements se comptent en milliers dans cette industrie où l'on ne récolte parfois les fruits de son travail que plusieurs années après le début du développement.
Et on parle encore gros sous, très gros sous, les salaires des footballeurs de la Ligue 1 de football. Comme chaque année, l'équipe publie son enquête aujourd'hui et Fabrice Abgral, sans surprise, ce sont les Parisiens qui dominent ce classement.
C'est simple, parmi les 20 joueurs les mieux payés de Ligue 1, 14 évoluent au Paris Saint-Germain. Les Parisiens occupent même les 10 premières places de ce classement. Au sommet, sans surprise, Kylian Mbappé, l'attaquant parisien, et marche comme l'an passé à 6 millions d'euros bruts par mois. Mbappé est payé 5 fois plus cher que les deux autres Parisiens présents sur le podium, l'attaquant Ousmane Dembélé et le défenseur Marquinhos qui, tous les deux par mois, touchent 1 120 000 euros. Deux autres défenseurs parisiens émargent à plus d'un million d'euros, Lucas Hernandez et Milan Skriniar. Il faut descendre à la 11e place pour voir dans ce classement les premiers joueurs non parisiens. Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant de Marseille, et Wissam Ben Yedder, l'avant-centre de Monaco, se partagent la 11e place avec un salaire mensuel de 650 000 euros. Côté entraîneur, le mieux payé, c'est celui du PSG, Luis Enrique, 920 000 euros. Chez les joueuses, l'attaquante du PSG, Marie-Antoinette Catoto, occupe la première place. Elle touche 58 000 euros par mois, c'est 100 fois moins que Kylian Mbappé.
Les footballeuses du PSG qui s'imposent hier 2-1 en Suède en quart de finale aller de la Ligue des Champions et puis tirage au sort du tournoi olympique plutôt clément pour les footballeurs français. Ils débuteront le 24 juillet contre les États-Unis, affronteront aussi la Nouvelle-Zélande et une autre équipe issue des barrages. Quant aux filles, elles évitent les États-Unis mais elles seront opposées aux championnes olympiques en titre, les Canadiennes, match d'ouverture contre la Colombie. Enfin, voici un album joliment intitulé Passage secret qui rappelle l'enfance et qui réunit ce qu'on appelle à tort la musique pour enfants, des petites pièces d'une à trois minutes de compositeurs aussi prestigieux que Bizet, Ravel, Debussy ou Fauré. Des pièces jouées à quatre mains, Stéphane Capron.
Dans cette pièce intitulée « Pas espagnol », Fauré répète à l'envi les mêmes notes, mains croisées ou superposées. Dans la tête de ses compositeurs, ce répertoire est tout sauf mineur. Ce sont de petits bijoux pour Arthur Ancel.
Cette musique qui est souvent justement considérée comme de la musique pour enfants. Pour nous, c'est des grandes œuvres d'intimité, bien sûr, mais aussi de partage, où les compositeurs y ont mis le meilleur d'eux-mêmes. Parce que le public enfantin, finalement, c'est nous.
Le duo nous fait découvrir un compositeur méconnu, Louis Aubert, un breton, ami de Ravel. Il a composé des contes féeriques, des chansons populaires et cette pièce, Danse de l'ours en peluche, dénichée par Ludmila Berlinskaya.
Magnifique compositeur qu'on découvre aussi par hasard dans un magasin de partitions il y a quelques années. On adore ça. Et puis ça rentre dans toute cette atmosphère, dans toute cette histoire de quatre compositeurs en plus. Et les valses nobles sentiments de Ravel était écrite pour lui.
Cela donne un album très joyeux avec ses pièces miniatures très narratives qui sont de vrais petits bonbons musicaux.
Passage secret de Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel. Ils seront en concert demain à Paris, à la salle Cortot.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le Zoom. Et cette question aujourd'hui, qui a fait exploser les gazoducs Nord Stream ?